Manfred Mohr, vous êtes de passage à Paris, vous vivez à New York, vous exposez à la Galerie La Lumière et vous écrivez depuis 1968 « Je travaille exclusivement sur un ordinateur ». Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a un avant 68. Qu'est-ce que vous faisiez ?
Il y a un avant très important. Non, moi, j'ai fait de la peinture abstraite, gestuelle. Je suis un enfant du tachisme. Mais dans les années 60, j'ai lu des livres de philosophes allemands qui s'appellent Max Benze. Et Max Benze parlait d'un art logique, un art construit. Et pour moi, c'était un peu choquant parce que un art logique, après être tachiste, c'est un peu le contraire. Mais ça m'a tellement fasciné que je ne pouvais plus m'en faire. Et pendant des années, je travaillais avec mon tachisme qui était devenu lentement géométrique. C'est-à-dire, dans les tableaux, il y avait des petits carrés qui apparaissaient, des triangles et des lignes droites. Et soudainement, vers 65, 66... mon art était géométrique, complètement.
L'attaché carré, c'est un peu comme une roue carrée.
Oui, si vous voulez, mais ce n'était pas encore logique. C'était une géométrie surréaliste, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là que je rencontrais un musicien français, un compositeur, Pierre Barbeau. Pierre Barbeau était le premier musicien en Europe qui faisait des programmes pour écrire la musique. C'est-à-dire, il écrivait dans un langage de programmation pour composer la musique. Et ça c'était vraiment là, c'est ce qu'il fallait. Alors, j'avais tout compris ce que je devrais faire. Et j'ai appris à programmer tout ça. Et je me suis lancé dans les ordinateurs, qui étaient encore un autre problème à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas on n'avait pas des petits laptops ou des petits grands ordinateurs, je sais. C'était, il fallait trouver un ordinateur qui est grand, comme la maison ici. Alors, comment faire? Alors, j'ai vu à la télé un soir une émission sur la météorologie nationale qui avait reçu une machine qui peut dessiner le temps. Vous savez, alors c'était merde, c'est ça qu'il faut. Alors je suis couru là-bas et j'ai demandé au directeur et tout ça, mais matériellement ça marchait pas comme ça. Mais on était très gentils avec moi. On m'a dit, envoyez-nous une lettre, expliquez ce que vous voulez. Et vous n'allez pas le croire, une semaine après, j'ai reçu une lettre du ministère de transport et j'avais un rendez-vous avec le ministère de transport. Alors là, je suis allé, le monsieur était très gentil. Je lui ai expliqué que je faisais de la recherche, je voulais essayer des choses avec la machine. Et bon, il a tout compris, il s'est levé, il a mis son bras sur mon épaule, il a dit, monsieur, moi aussi, j'étais un artiste. Alors, je savais, j'avais gagné. Et depuis cela, je pouvais travailler chaque nuit. Pendant 11 ans, je travaillais chaque nuit à la Météorologie nationale et je faisais mes dessins. Mais le problème, c'était que, une fois commencé à faire ces dessins-là, tout le monde les détestait parce qu'on n'aimait pas l'art et la machine ensemble. Alors, j'avais tellement des oppositions et tellement des aggravations avec des gens, même des amis, ils tournaient contre moi. Mais quand même, il y avait un qui ne se tournait pas contre moi, mais il a tout de suite vu que ça pourrait être intéressant. Et c'était M. Gaudibert, du Musée d'Art Moderne. Alors, Gaudibert m'a invité à une exposition en 71. Et j'avais une exposition au Musée d'Art Moderne à L'Arc. Et c'était maintenant, historiquement, c'était la première exposition mondiale, disons, d'un artiste, une exposition one-man show, avec un art entièrement calculé et dessiné par une machine. À l'époque, c'était quelque chose de spécial. Aujourd'hui,
c'est plus... Alors, la question quand même à poser, c'est, il s'agissait de montrer quoi?
Justement, je voulais savoir ce que je fais. Alors, d'abord, j'ai analysé mes anciens tableaux. J'ai écrit, je prends un certain pourcentage de ces sortes de lignes, un certain pourcentage de ça et ça et ça. Alors, j'ai établi toute une librairie de données et à partir de ça, j'écrivais des programmes, surtout parce que moi aussi, j'étais très dans la musique du jazz et jouais des acteurs. Et je faisais des notations abstraites. Et tout ça, c'est des langages d'écriture. Tout ça, je essayais de programmer et ça marchait tellement bien que je croyais, bon, c'était peut-être pas tout à fait ça que je devrais faire parce que c'est trop facile. Et j'ai pensé, peut-être, comme musicien, j'ai pensé, si je joue avec un piano, n'importe quoi je fais, si je prends un marteau et je tire sur le piano, ça sonne toujours comme un piano. Ou un saxo, n'importe quoi je fais, ça, on reconnaît, c'est un son du saxo. Alors pourquoi je ne pourrais pas inventer un instrument graphique? Alors, chaque fois que je joue avec, ça sonne graphique. Et j'ai pensé, peut-être, le cube pourrait être mon instrument. Et j'ai commencé à faire des études sur le cube, en enlevant des lignes, faisant couper le cube et tourner. Et j'ai vu, ça, c'est mon instrument formidable. J'ai développé un vocabulaire fantastique. Et pendant des années, le vocabulaire est devenu de chaque fois plus compliqué. J'allais dans 4 dimensions, 5 dimensions, 6 dimensions. Et aujourd'hui, même à la lumière, je montre des choses mathématiquement en 11 dimensions. Parce que ce n'est pas la question mystique de la dimension ou mathématique. C'est un système qui devient plus compliqué, un système de lignes. Et avec ça, c'est un matériau que je peux utiliser.
Alors, je rappelle que vous êtes né en Allemagne, vous avez vécu longtemps en France, où nous nous sommes rencontrés à Paris, au début des années 70. Vous aimez beaucoup les Américaines. D'ailleurs, vous avez épousé une Américaine et vous vivez aujourd'hui aux États-Unis.
Oui.
Alors, première question, qu'est-ce qu'il y a du côté de l'Amérique ?
Comme tout enfant qui est né après la guerre ou pendant la guerre, on rêvait après la guerre de l'Amérique. Et moi aussi, je n'étais pas une exception. Je rêvais toujours de vivre en Amérique, mais ça ne se présentait jamais. Je ne sais pas, je n'avais pas de l'argent pour y aller. Je n'ai pas l'esprit tout à fait conclu, mais j'avais une bourse en Allemagne pour aller dans un autre pays, mais pas si loin que l'Amérique, mais je suis allé en Espagne. Alors en Espagne, je restais 2 ans, mais je ne voyais pas l'intérêt artistique là-bas pour moi. Je jouais du jazz là-bas, dans les boîtes.
Alors, nous sommes rencontrés dans les années 70 et vous commenciez à travailler, à déformer, à transformer le cube, du moins à l'ouvrir.
Oui, justement, je viens de dire que le cube est devenu mon vocabulaire. J'ai coupé le cube, j'ai tourné de côtés, parce que mon principe, c'était de casser la symétrie. En cassant la symétrie, je peux créer un nouveau ordre. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aime l'ambiguïté, c'est-à-dire tout est plat chez moi. J'aime pas qu'il n'y a pas devant et derrière et qu'un signe se crée par son ambiguïté. C'est ça mon idée.
Mais est-ce que vous ne devez pas affronter un art systématique ?
C'est systématique tout ça. C'est plus que systématique, c'est logique et systématique. C'est ça que je cherchais. C'est ça que...
Donc répétitif.
Non, c'est pas répétitif parce que dans un programme, on peut élargir une idée à des multiples ou des infinies solutions. C'est pas répétitif. On peut être répétitif si on veut, mais c'est pas nécessaire parce qu'on a toutes les portes s'ouvrent avec un programme et on peut toujours tout faire si on peut le dire en langage programmation.
En 70, vous faisiez face au noir et blanc. Aujourd'hui, à la couleur.
Oui, j'étais noir et blanc pendant 35 ans. Mais pour moi, la couleur, ce n'est pas un problème de couleur. Je suis arrivé à...
C'est un problème de programmation ?
Non, c'est tout à fait autre chose.
Qui programme la couleur ?
La machine, c'est des couleurs au hasard. Non, mais ce n'est pas ça. C'est plus important, c'est que j'arrivais dans mon travail à un minimalisme, mais qui était très complexe. Alors, je ne pouvais pas aller plus loin avec 5 lignes en disant ça, c'est 6 dimensions. Et tout ça, je ne pouvais plus... J'allais vers un mur. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Alors, j'ai vu que si je pourrais colorer les espaces dans mes dessins, pas dire rouge, bleu, vert, n'importe quoi, mais laissant la machine décider les couleurs, et plus controverses ils sont, plus c'est bien pour moi, parce que ça montre les différents espaces, et ça marchait très bien, tout de suite. Et moi, j'avais même pas un choc quand j'ai utilisé les couleurs, après 35 ans, c'était juste pour montrer les différences des espaces. Et après, je faisais ça tourner sur un écran, et une fois que ça tourne lentement, ça devient une merveille de composition.
Alors, il s'agit de démontrer, par exemple, le cube, mais aussi de faire entrer le spectateur dedans. Par exemple, là, je suis devant un cube ouvert. On est vraiment à l'intérieur du cube.
Mais non, c'est votre problème. c'est pas ça du tout. Non, on n'entre pas dans le cube. On reste dehors. On regarde un signe.
Le cube est ouvert. Il s'offre.
Oui, parce qu'il n'y a que des lignes. Vous regardez à travers, mais vous voyez un signe. Si vous prenez la lettre B, vous n'entrez pas dans le B. Vous voyez un signe B. C'est là aussi, c'est la sémiotique, c'est quelque chose qui m'est très cher. C'est-à-dire, pour moi, le signe...
C'est quoi la sémiotique ?
Ouais, c'est la science sur les signes, que le signe raconte son propre histoire. Alors, si on veut l'apprendre, on peut l'apprendre, mais ce n'est pas nécessaire pour regarder. Mais pour moi, un signe, c'est un résultat d'un acte. Et c'est ça que je fais.
Les œuvres n'ont pas de titre.
Hein. Ils ont des numéros. Parce que les titres, c'est beaucoup plus dur à trouver. Le titre, il y a Kandinsky et Clay qui restent des heures ensemble pour trouver.
La machine n'aime pas les titres.
Ben non, c'est pas la machine, n'a rien à dire. C'est pour moi, c'est plus facile de dire le 133, le 205, le 1003. Je comprends tout de suite. Avant, au début, je donnais des signes, des noms. Mais c'est devenu trop romantique, trop... Ah, putain. Thank you.
Benoît Maton, vous avez vu la dernière exposition de Manfred Mohr, qui est l'un des premiers à avoir introduit l'ordinateur dans l'art. Certains partent du livre, dont lui d'ailleurs, et d'autres partent de l'ordinateur. Lui a comme commencement et le livre et l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du cube, de l'obsession du cube chez Manfred Mohr? Du cube monté, démonté, refait, réinventé à l'infini.
La différence avec ceux qui se sont souciés de la forme en volume du cube chez Manfred Mohr vient du fait que l'idée est que le cube a six côtés. Donc il y a six dimensions planes dans cette figure qui est en relief et qu'il a voulu, en transformant les lignes du cube, toutes les lignes du cube, en les transformant, créer des figures qui sont, à mon avis, et telles que je les ressens, des figures temporelles. C'est pour ça qu'il a, à un moment, commencé, comme Vera Molnar d'ailleurs, à utiliser l'ordinateur pour introduire le temps de transformation de ces figures. Et je ne sais pas dans quelle mesure, parce que les objets sont d'une informatique, sont très très beaux, c'est magnifique, mais je ne sais pas dans quelle mesure les tableaux ne sont pas plus passionnants, parce que ce mouvement, il est là et il est impossible dans le tableau. Tandis qu'il se déroule physiquement et visuellement parfaitement sur l'écran d'ordinateur, mais dans le tableau, il y a l'avantage de l'objet qui se perd avec la machine dans l'écran d'ordinateur. Donc, il me semble parfois... On est fasciné, bien sûr, par la beauté des programmes qui nous sont montrés, cette transformation lente des formes, c'est magnifique. Et on regarde un tableau, tout d'un coup, il a l'air éteint, et il se rallume, et il est peut-être plus profond et plus touchant.
Pendant très longtemps, Manfred Mohr a travaillé en noir et blanc. Aujourd'hui, il est en couleur. Est-ce que vous ne trouvez pas que les couleurs sont indéfinissables? Et pourquoi le sont-elles, d'ailleurs?
Ce n'est pas qu'elles soient vraiment indéfinissables. Elles sont...
Je veux dire, sans définition.
Oui, sans définition. Oui, exactement. Exactement. Parce que elles obéissent aussi au même principe que les lignes, à une transformation continue. Donc elles passent par des intermédiaires et il n'y a jamais d'établissement d'une gamme qui aurait derrière une sorte de figure pure de la couleur, justement. Et ce sont toujours des passages d'une couleur à l'autre constante. Et donc, le mélange se fait dans ce passage, et non plus, comme dans la peinture, par un mélange de couleurs lui-même.
Vous ne trouvez pas qu'il y a, à propos de passage, un passage cruel pour Manfred Mohr? C'est-à-dire que pendant très longtemps, il nous a montré le cube dans tous ses états, mais sous la forme de lignes. Et aujourd'hui, ces lignes sont passées à un stade beaucoup plus sophistiqué qui s'appellerait des plans. Par exemple, ce que vous avez devant les yeux, on a essentiellement on voit d'abord les plans et ensuite les lignes. Les lignes des plans.
Oui. C'est la manière dont il aménage la profondeur, c'est ça qui est important dans son travail, dans la mesure où il l'aménage d'abord par la ligne, par deux forces de ligne, une ligne fine et une ligne grasse, et dans un deuxième temps, par la couleur, dans les tableaux en tout cas. Et c'est cette collusion entre, ou collision même on pourrait dire, entre la ligne et les plages de couleurs qui font justement le miroitement et la profondeur temporelle de ces tableaux. Dans un sens, et à la limite, j'ai eu le sentiment en regardant l'exposition qu'il n'avait pas vraiment besoin de l'ordinateur, que le tableau aurait été suffisant, tellement les objets sont magnifiques et convaincants aussi, d'une grande beauté, alors qu'il n'y a aucune intervention dans les tableaux de la main, semble-t-il. On dirait que ces objets...
Alors, je vais vous répondre. Ce qui est important, c'est le mot « décision ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrête l'infini et il choisit. Le tableau ne vous autorise pas à la décision.
Oui, c'est-à-dire qu'il a, c'est exactement ça. Hein. Il arrête un moment d'une évolution. Et il en fait, et cet arrêt est un tableau. Et c'est là où il y a une idée très très moderne du temps dans la peinture, je trouve. Parce que ce n'est plus un instant, ce n'est plus un moment, c'est l'action d'arrêter une évolution. Et ça, c'est autre chose, parce qu'elle contient...
Et qui arrête le hasard.
Et ça arrête le hasard, voilà, c'est ça, exactement. Et elle contient une autre idée du temps. Une autre idée du temps qui n'est pas un temps vécu, mais qui est un temps presque abstrait. Et c'est ça qui est passionnant dans sa peinture. Et ce qui est étonnant, c'est que cette chose qui pourrait apparaître comme désincarnée, totalement désincarnée, donne un sentiment d'existence très fort.
Cœur de votre problème, est-ce que la machine vous renvoie l'idée d'infini ?
Ben elle me montre ce que je peux lui expliquer, ce qu'elle devrait me montrer. C'est toujours moi qui est maître. La machine, c'est une amplification intellectuelle pour moi. Ou mécanique aussi, elle peut dessiner des choses ou montrer des choses que je ne peux pas faire avec mes mains. Mais c'est comme Marshall McLuhan disait, c'est la machine, c'est pas contre nous, la machine est une extension de nous. Alors pour moi, j'ai jamais eu le problème qu'une machine est contre l'humanité, c'est toujours une extension.
Et quand est-ce que l'œuvre est arrêtée par vous, par la machine ?
Ben, soit je donne des instructions fixes qu'au bout d'un certain moment, c'est ça qui est fait, ou moi je l'arrête, ou ça dépend, ça dépend du programme.
Donc c'est le temps qui s'impose et pas
oui,
le sens.
Oui, il y a le temps qui s'impose parce qu'elle travaille, mais dans mes nouvelles travaux, les nouveaux écrans que je fais, ça va à l'infini, c'est-à-dire... Ça continue à créer des formes à l'infini. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où on dit « maintenant, c'est ça ». C'est-à-dire, c'était ça et maintenant, c'est autre chose. Alors, ça devient une transformation perpétuelle. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est juste un arrêt. Il faut faire des décisions.
Bon, Fred, c'est pas décourageant, ça ?
Décourageant ? Non, je pense que c'est fascinant. Non, c'est décourageant si on arrête. Non, mais c'est...
Donc, vous êtes fasciné par vous-même, par une image que la machine vous donne de vous-même.
Je me découvre chaque fois plus et je suis étonné que ça peut être dans mes pensées.
la machine entre dans votre état mental.
Elle fait partie, elle fait. C'est devenu une déformation professionnelle. C'est-à-dire, elle fait partie. Bon, je ne peux plus rien faire sans cette machine. Si vous voulez transporter quelque chose, vous n'allez pas porter ça sur le dos, vous prenez une voiture, alors c'est la même chose.
Alors, vous dites, vous êtes fasciné par par la machine. Est-ce que vous n'êtes pas aussi fasciné par cette émotion due au vertige ? Car la machine peut vous offrir le vertige.
Non, pas du tout. Non, ça c'est... Non, je ne vois pas comment je peux avoir un vertige. Non, elle fait ce que je veux.
Est-ce qu'il y a des émotions ?
Il y a toujours des émotions. Mes émotions qui sont formulées. Il y a des gens qui disent c'est très froid ce que vous faites, il n'y a pas d'émotion. Mais moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve que c'est...
Je vous dis vertige, vous me dites non, il n'y a pas de vertige. Moi, je pense qu'il y a du vertige.
Ah, moi je ne le vois pas. Je ne sais pas, non, je ne peux pas répondre à ça, je ne vois pas.
La multiplicité des images suivent peuvent donner...
Non, mais c'est fascinant, c'est fascinant. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas une solution. Vous voyez, la vie est comme ça, la vie a des milliards, des billions de solutions.
Alors... Est-ce qu'au départ, vous n'êtes pas parti de la ligne et aujourd'hui, vous arrivez au plan ?
Je suis parti comme musicien du temps, c'est-à-dire la ligne, comme vous voulez, qui se développe dans le temps. Mais je suis arrivé au signe en soi, qui est sans temps. Mais le temps joue toujours, parce que ça bouge dans mes écrans. Il y a le temps qui change les choses, mais c'est toujours le signe en soi qui m'intéresse.
Vous savez que, Manfred, que beaucoup d'artistes ont des origines intellectuelles un peu bizarres. Et quand je pense à vous, je pense au livre. Je pense toujours que vous venez du livre, de l'obsession du livre. Est-ce que c'est juste comme intuition ou c'est très très loin de la vérité ?
C'est trop loin de la vérité. Non, je viens pas du livre, je viens de la musique.
Vous savez qu'il y a
c'est la même chose, un
vous
peu.
Vous savez que beaucoup d'artistes ont écrit des livres.
Oui.
Imaginaire, par exemple.
Non, j'ai jamais écrit plus que 5 lignes. Que
par exemple, un de vos amis, Jochen Gertz.
Oui, on a travaillé ensemble dans les années 60.
Et vous ne faisiez pas de livres ensemble ?
Je faisais des livres d'artistes.
Ben, vous voyez ?
Oui, mais c'était une fois dans ma vie. je faisais un livre avec eux, avec Agencia, l'édition Agencia, qui s'appelait Artificiata. C'était un livre...
Comment était-il, ce livre ?
Ce livre, c'était des signes qui, comme la musique qui se développe dans le temps. On tourne les pages et chaque fois, il y a plus de signes qui apparaissent. Sur un fond, comme les lignes de la musique.
Les pages remplacent les partitions.
Oui, c'est ça, comme une partition. Ça commençait très vite et à la fin, ça se terminait par ça avec un 5. Je ne sais pas pourquoi.
Manfred Mohr, vous exposez naturellement, régulièrement en Allemagne, en France et aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'il y a une stratégie de l'exposition ? C'est-à-dire une exposition très difficile pour l'Allemagne, très douce, très tendre pour la France, et une exposition à définir pour New York ?
Non, j'ai pas de stratégie. Je fais mon travail.
Des amis m'ont dit que vous étiez un grand stratège pervers.
Ah, c'est gentil. Mais c'est pas mon art. Non, j'ai pas de stratégie. Je fais ce que je veux faire. Une fois que c'est fait, je les montre
Mais
à mes galeries.
Votre travail n'est pas pervers.
Ça dépend de ce que vous voulez. Non, ce n'est pas pervers dans le sens...
Que vous êtes là, on ne vous attend pas.
Pour moi, la perversité, c'est plutôt... C'est, je m'enlève mes vêtements maintenant. On commence à parler nu, là. Mais je ne vois pas la perversité dans un art logique. Peut-être, si quelqu'un n'aime pas la logique.
Il s'appelle comment, cet art ?
Oh, ça a changé le nom 50 fois. Je commençais à l'appeler art génératif. Mais le problème, personne ne savait de quoi je parle. Après, je l'appelais, c'est mon travail. Je ne dis plus rien. Mais aujourd'hui, on dit toujours... Maintenant, c'est devenu digital. Mais ça, c'est... Ça, c'est...
Vous ne dites pas art concret pour faire plaisir à Gottfried Honegger?
Non, je suis dans la direction de l'art concret, mais je ne suis pas concrète. J'entre dans ce même domaine, mais je suis plutôt... Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas l'art concret, c'est un art géométrique, dans son sens pur. D'ailleurs, j'ai vu, c'est drôle que vous mentionnez Gottfried, parce que je viens de le quitter il y a 2 jours à Zurich. On était ensemble, il a 92 ans, hein. C'est incroyable. Il travaille comme un fou.
Peinture fraîche, François Boiron, Manfred Mohr. Site internet www.franceculture.com et vous tapez peinture fraîche. Coordination Anne Dubiran. Réalisation Clotilde Pivin. La semaine prochaine, 2 artistes contemporains, Richard Nikon, Shirley Yaff. Dans quelques instants, les informations de la rédaction de France Culture.